Seigneur notre Dieu, bénis-nous, apprends-nous à découvrir la richesse de la vie de Samson, la découverte de ton dessein, Seigneur éternel, de ton intervention puissante pour protéger Israël. Nous te louons d'avance, de Seigneur, de ce que tu nous apprendras, de ce que tu nous enseigneras, de la lumière que tu apporteras dans notre intelligence. Au nom de Jésus, amen.
Amen.
Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Philistins, quand Titus, en l'an 70, a rasé tout Israël, a déporté tout le monde, jusqu'en 1948, forcément, Titus a dit, ce n'est plus la terre d'Israël, c'est la terre des Philistins. Hein, en latin, Philistin, c'est palestinien. Palestina. Le mot palestinien veut dire philistin. Pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoac. Donc, vous voyez bien ici qu'on est dans la tribu des Danites. Cette tribu avait une caractéristique, c'est qu'elle a, d'abord eu un territoire en dernier, donc on leur a donné deux morceaux. Ils ont été mal servis, ils ont été un peu servis. Il a fallu que les autres tribus relâchent certains morceaux pour leur donner. Bon, vous voyez, toujours dans une famille, il y en a toujours un petit peu qui est le petit canard noir et qui ramasse un peu les morceaux. Ben voilà, cette tribu avait quand même connu des gros problèmes à cause de ça. Et là, quelque chose de spécial, c'est que tous ces hommes tirent de l'arc de la main gauche et de la main droite. Tous. Dans les combats, cette tribu était redoutable. Quand le bras droit est fatigué, le bras gauche ne l'est pas. Or, quand on a les autres en face qui ne tirent qu'avec le bras droit, un jour, ils ne savent plus tirer juste. Les Danites étaient des archers redoutables, et quand il fallait gagner une bagarre, il les fallait avec. Il valait mieux ne pas être contre. Bon. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un autre point qui va arriver, vous allez voir. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoac. On ne donne pas le nom de la dame, malheureusement. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Toujours quand il y a un projet de Dieu très puissant pour la survie d'Israël, il y a un cas de stérilité. Vous voyez Abraham avec Sarah, et vous voyez Jean-Baptiste, sa mère Élisabeth, ok ? Vous avez plusieurs cas comme ça dans la Bible. Eh bien, voilà un cas, c'est la maman de Samson, qui après aura d'autres enfants. Mais vous avez la même chose, par exemple, pour Anne, la maman de Samuel, le premier prophète, qui a commencé à choisir les rois. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1, vous voyez qu'elle est malheureuse, et elle prie Dieu pour avoir un enfant qu'elle va après offrir à Dieu, à l'âge de 3 ans, qui va servir dans le temple, qui sera un très grand prophète, qui aura beaucoup d'autorité sur Israël, c'est Samuel. Donc c'est toujours, à un moment donné, incapacité de l'homme, capacité de Dieu. Retenez bien ce thème. Incapacité de l'homme, capacité de Dieu. Impuissance de l'homme, puissance de Dieu. Faiblesse de l'homme, puissance de Dieu. Rappelez-vous avec Paul avait les yeux purulents, il avait des crises un petit peu comme des crises d'épilepsie, il était à Éphèse pendant 7 ans quasiment complètement handicapé, et il a dicté les deux lettres aux Corinthiens, il les a simplement signées, c'est Sylvain qui les a écrites, avec Timothée, Sosthène, et puis c'est Paul qui les a signées, mais il demandait, 2 Corinthiens chapitre 12, il demandait à Christ, à Jésus-Christ, de le guérir de ses yeux purulents, de ses crises un peu comme de l'épilepsie. Et il dit que c'est un démon qui l'attaquait, qui le soufflait. Il dit même dans cet épître qu'il a été livré, dans 1 Corinthiens, qu'il était livré à des bêtes. Or, quand on regarde le texte, à Éphèse, le mot bête, c'est démon, démonion. Donc, Dieu peut laisser parfois un chrétien aux prises avec des démons un certain temps pour briser son orgueil et briser son caractère. Je vous le dis, c'est pas que Dieu ne l'aime pas, c'est pas que Dieu l'a rejeté, mais des fois il faut casser ce caractère qui ne se laisse pas conduire par Dieu. Et pratiquement ce qui se passe, il est évident que Paul a subi avec respect, avec acceptation, docilité, cette attaque. Et il a accepté une parole que Jésus lui a dite, c'est dans ta faiblesse que je me glorifierai, ma grâce seule te suffit. Quelle grâce ? Celle d'avoir acquis le pardon de ses péchés à la croix. Celle d'être aimé et d'être conduit par le Saint-Esprit. Donc on voit bien que dans les cas typiques de la Bible, la faiblesse est à l'origine du ministère. Et donc dans Jésus, dans Philippiens chapitre 2, il était de condition divine, et il a pris la condition d'un esclave. Dans Philippiens chapitre 2, c'est clair, Jésus a choisi la faiblesse. Et dans la deuxième aux Corinthiens, Paul dit qu'il nous a enrichis de sa pauvreté. Jésus nous a enrichis de sa pauvreté. Une pauvreté voulue, délibérée. Bon, ça c'est un thème extrêmement important qu'on pourrait approfondir énormément. Pourquoi ? Il faut savoir si réellement vous mettez, c'est comme un engrenage, vous mettez les doigts dans l'engrenage, c'est-à-dire que vous donnez votre vie à Jésus. Ne croyez pas, si réellement, réellement ça s'est passé, que vous donnerez que le bout des doigts. Vos péchés passeront à la moulinette. On ne se moque pas de Dieu, c'est lui qui brise le péché. Dans Jérémie, chapitre 23, ma parole n'est-elle pas comme un feu qui purifie, comme un marteau qui brise le roc, hein? Et dans Ézéchiel, il est clair qu'il est promis de tirer le cœur de pierre pour donner un cœur de chair, un cœur qui est sensible, qui connaît la faiblesse, a besoin de Dieu. Donc ça, c'est un thème extrêmement important, et vous allez voir qu'il se passe des choses dans le cœur des parents, dans ce sens-là. Sa femme était stérile, verset 2, et n'enfantait pas. Un ange éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur fort, ne mange rien d'impur. Donc ça, c'est la règle pour tout enfant que Dieu choisit, qui va être un naziréen, c'est-à-dire un homme consacré à Dieu, pour apporter la parole, et qui devra avoir des règles strictes dans sa vie pour ne pas s'égarer. Vous savez que l'alcool, vous savez que l'esprit, et tout l'esprit de jouissance qu'il y a derrière, ou de rancœur et d'amertume, parce qu'il y a les deux dans l'alcool, l'esprit de jouissance et d'égarement, et l'esprit d'amertume et de rancune, de colère, eh bien, il y a quelque chose qui nous amène à chuter dans les convoitises, dans le mauvais chemin. Et il faut, et bien sûr, l'Évangile nous appelle à la sobriété. Pourquoi ? Parce qu'il faut rester maître de nos émotions et ne pas céder à nos convoitises, à nos sentiments et à nos ressentiments. Donc ici, le terrain qui prépare ce bébé doit être propre. La maman ne doit pas boire, etc. Et lui après non plus. Que de choses tristes aujourd'hui quand on voit des femmes qui sortent, qui boivent, qui font n'importe quoi et qui sont enceintes. Elles préparent quoi pour le futur de la société? Que des gens à problème, qui iront toujours à la sécurité sociale, qui vont courir à droite et gauche, ou qui iront en psychiatrie. Quand on est dans un jardin et qu'on veut avoir une bonne récolte, on nettoie son terrain, on fait un terrain propre. C'est la même chose. On devrait savoir que on ne peut pas faire naître un enfant dans une poubelle. La femme doit respecter son corps et l'homme doit respecter le corps de sa femme. Et il y a des mesures de protection pour rester propre. Verset 4. « Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Donc on sait déjà que les anges ont un nom et que parfois dans la Bible ils se présentent avec leur nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils et maintenant ne bois ni vin ni liqueur fort, ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Imaginez, consacré à Dieu. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Voilà, l'humilité de cet homme qui se rend compte qu'il faut être enseigné par Dieu pour pouvoir guider cet enfant qui va venir. Aujourd'hui, dans notre société, combien d'hommes ont cette sagesse de s'adresser à Dieu et de recevoir de la sagesse pour enseigner leurs enfants? Combien d'hommes? Le travers de notre société, c'est que tout le monde est persuadé qu'il a raison sur ce qu'il pense. Pourtant, c'est ce que le contraire, la Bible dit le contraire. L'homme n'est que vanité. Donc, vous voyez ici, vous avez affaire à un homme qui va s'humilier devant Dieu, et c'est une grande richesse. Dieu exauça la prière de Manoach, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Donc, l'ange s'adresse deux fois à la femme. Déjà, c'est quelque chose de très important, parce que nous avons souvent l'avantage à l'homme. C'est toujours l'homme. D'ailleurs, la preuve, regardez, on ne donne pas le nom de la femme. Mais n'empêche que l'ange de l'Éternel, il vient vers la femme. Dieu corrige toujours le tir quand on s'égare. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, mais apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Donc l'ange est là et il attend le mari. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard d'un enfant? Qu'y aura-t-il à faire? Vous voyez l'humilité de cet homme? Il accepte de dépendre de Dieu, il accepte de dépendre des consignes divines. Et la grande richesse, je le dis ici, pour tous ceux qui préparent leur vie, surtout pour les adolescents, la grande richesse, c'est de trouver un garçon, un homme qui cherche la volonté de Dieu. Et qui sait bien qu'il n'a rien sans cette volonté. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit, elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, elle ne mangera rien d'impur, elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach, verset 15, dit à l'ange éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. Donc il veut l'accueillir, il veut le fêter, le célébrer. Et quand on offre un repas comme ça, aussi, c'est pour qu'il y ait une alliance, une conjonction de la volonté de l'ange éternel et de leur vie. Et bien sûr, une reconnaissance. C'est vraiment le sens d'une alliance. L'ange éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange éternel. Donc on avait un ange, maintenant on parle de l'ange éternel. Il faut réfléchir sur ce sujet. Manoach dit à l'ange éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Tiens. Le nom de l'ange, c'est merveilleux. Les amis, Manoach a désiré être enseigné, et sa femme est là, bien sûr. Avec. Merveilleux, c'est le nom de Dieu seul. Merveilleux, c'est le Dieu qui fait des merveilles, c'est le Dieu qui fait des miracles. Or, c'est caractéristique des Juifs, lorsqu'ils veulent reconnaître, si Dieu est là, ils veulent un miracle. C'est dans leur tendance. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2, 22, il dit... Les Grecs demandent la sagesse, les Juifs demandent des miracles. Et il y a plein de psaumes, plein de passages dans la Bible où c'est comme ça. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Les Juifs demandent des miracles. C'est le Dieu des miracles qui a fait passer la mer rouge. C'est le Dieu de la résurrection. Le nom merveilleux, Dieu fait des merveilles. Il fait des choses qui sont impossibles à l'homme et qui dépassent l'entendement de l'homme. N'est-ce pas? Ça, c'est extrêmement important qu'il se fait reconnaître comme le Dieu qui a déjà délivré de l'Égypte, qui a parlé à Abraham, Isaac, Jacob, etc. Ensuite, il y a quelque chose de très important encore, c'est, si vous regardez le chapitre 13, verset 20, vous avez une flamme de feu. Donc je vais reprendre au verset 19. Manoac prit le chevreau, l'offrande, fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige, comme Manoac et sa femme regardaient. Voilà donc un prodige, une merveille, quelque chose d'impossible à l'homme, qui dépasse les capacités humaines et les capacités de la nature, un peu comme l'étoile brillante dont parlait Vincent tout à l'heure. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoac et sa femme tombèrent la face contre terre. Donc il y a un feu qui monte et l'ange monte avec. Et évidemment, il y a de quoi être impressionné, parce qu'il n'y a pas de bois, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de gaz pour allumer ce feu. Est-ce qu'il n'y a pas eu, lorsque Enoch est monté au ciel dans la Genèse, lorsque Élie est monté au ciel, est-ce qu'il n'y a pas eu des chars de feu? Est-ce qu'à la Pentecôte, il n'y a pas eu des flammes de feu? C'est l'autorité de Dieu qui éclate. Et, bientôt, sur ce monde, n'y a-t-il pas une épreuve par le feu? Il y avait l'époque de Noé, épreuve par l'eau, il y aura l'épreuve par le feu. Il y aura de quoi tomber sur sa face à terre. Nous ne pourrons pas résister à la manifestation divine qui un jour va se faire. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoac et à sa femme. Alors Manoac comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Donc vous voyez ici que l'ange éternel et Dieu, c'est la même chose. C'est le nom de Dieu, l'ange éternel. L'ange éternel qui a apparu à Abraham sous la chaîne de Mambré, avec deux autres anges qui vont à Sodome et Gomorre, auprès de qui Abraham demande d'épargner Sodome et Gomorre, l'ange éternel, c'est Dieu. Nous voyons bien que dans Jean chapitre 7, Jésus dit, Abraham a vu ma face, il a tressailli de joie en me voyant, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est Jésus qui est apparu à Abraham. Quand Moïse voit le buisson ardent avec l'ange éternel, après, dans Exode chapitre 2, 3 et 4, on voit bien, si je vais en Égypte et que je vais voir les Hébreux, ils ne me croiront pas si je dis que j'ai vu Dieu. Or, l'ange éternel est Dieu, à chaque verset ça s'alterne. L'ange éternel, c'est Dieu. Mais qui est ce Dieu qui apparaît? Bien, si vous regardez dans Jean chapitre 1, verset 18, vous allez voir que vous devez savoir qu'un grand principe, nous verrons Dieu dans sa gloire et sa magnificence, Dieu le Père, que quand le Christ remettra tout son royaume dans les mains de son Père, et nous avec. Donc, qui est ce Dieu qui apparaît? Dans Jean chapitre 1, verset 18, vous allez voir que, oui, c'est Dieu, mais c'est le Dieu, la deuxième personne de la Trinité, c'est le Christ. C'est le Christ qui est l'image du Père, issu du sein du Père, qui nous l'a révélé. Chapitre 1 de Jean, on va commencer au verset 14. La parole a été faite chair, donc humaine, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà, ça c'est clair. Verset 14. Un peu plus loin, on parle de Jean-Baptiste, je recommence au verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc chaque fois que dans l'Ancien Testament, nous avons une apparition de l'ange éternel, c'est Dieu. Or Dieu, le Père, ne se révélera que quand toute la création est sans péché et sans présence de Satan. Et seulement aux élus, aux sanctifiés. Donc quand Christ remettra son royaume. Donc Dieu n'apparaît, Dieu le Père. Donc qui apparaît, c'est Dieu le Fils. C'est le Christ, la deuxième personne de la Trinité, qui apparaît dans sa gloire à Manoach et à sa femme. Ok ? Donc, le Christ est présent de toute éternité et agissant de toute éternité. Et il n'est pas lié à l'enfantement de Marie. S'il prend un corps dans le sein de Marie pour un certain temps, c'est parce qu'il avait besoin d'être visible et de montrer la sainteté de Dieu à travers son comportement pendant 35 ans et de mourir sur la croix pour payer nos offenses, nos dettes. Mais en dehors de ça, le Christ est éternel. Quand Jésus dit à ses disciples, Matthieu chapitre 28, 18 à 20, « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, c'est clair, il est Dieu. » Quand, dans les tentations de Matthieu, quand Satan tente Jésus, Jésus lui propose de changer les pierres en pain, puis lui propose de se jeter du haut du temple. À la deuxième tentation, Jésus dit à Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, il se désigne lui-même comme Dieu. Ça va ? Tant pis pour les protestants qui ne croient pas à la divinité de Dieu aujourd'hui, parce qu'il y en a plein, à sa puissance éternelle, à sa divinité, qui ont tout dilué, et beaucoup de gens qui ont mis des places, des statues avec des saints, tout ça, qui ont relégué Jésus à peu près au même niveau, tant pis pour les témoins de Jéhovah qui ne pensent pas que Jésus est Dieu. Et beaucoup d'autres confessions qui ont altéré l'autorité de cette révélation. Alors, nous voyons ici que dans ce texte des juges, la manifestation de la divinité du Christ est là, et Manoach et sa femme vont recevoir un enfant béni. Donc, au chapitre 13, verset 24, la femme enfanta un fils, lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, l'Éternel le bénit, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makané Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. Alors, pratiquement, l'Esprit-Saint va absolument provoquer un conflit dans la vie de cet homme. Pourquoi ? Ben, c'est une force de la nature. C'est une force de la nature, je m'excuse, c'est un pécheur. Avec tous les instincts du pécheur et toutes les tendances du pécheur. Vous savez ce que dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 3 ? Nul n'est juste, nul n'est saint. Nul ne connaît le chemin de Dieu. Tous ont du venin de serpent sous la langue. Hein? Nul ne cherche la vérité. Tous ont du sang sur les mains. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 10 et suivant. Et verset 23, tous sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par le sang de Jésus-Christ. Alors, il est clair que nous avons affaire à un pécheur. Et comme c'est une force de la nature, eh bien, il a des tendances assez fortes. Dans tous les domaines. À chacun de nous de réfléchir s'il ne lui ressemble pas un peu. Alors, le rôle capital du papa, c'est d'avoir cherché l'enseignement de Dieu avec la maman et d'avoir préparé l'enfant à aimer Dieu, à le craindre, à respecter. Et malgré tous les efforts du papa et de la maman, ben, le fils va faire des choses bien différentes. Ils l'ont préparé à combattre le péché, parce qu'ils croyaient à la sainteté de l'ange éternel, à ce Dieu qui leur a apparu, ils croyaient à la vocation de leur fils, ils vont l'apprendre à combattre le péché. Mais le fils n'a pas l'impression de devoir combattre le péché, lui. Il aime bien le péché, ça a du bon le péché. Hein ? C'est un vrai humain. Un vrai humain. Ça nous ressemble très fort. Chapitre 14. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Donc, dans ces tribus à côté, les Philistins, qui ont fait des sacrifices humains, où la civilisation est très puissante parce qu'ils ont les forges, ils ont le métal, ils ont énormément de cités prospères, alors que les Hébreux vivent sur les collines avec des moutons et un bâton, dans des cabanes. Ils ne sont pas brillants, les Hébreux, à cette époque-là. Ça dure longtemps. Ça va durer 2 siècles et demi. C'est plutôt lamentable, parce que dans les vallées, il y a l'eau, il y a les champs, il y a la verdure, il y a les céréales, il y a les moulins, il y a les forges. Et les Philistins, eux, sont extrêmement équipés. Ils ont des armures, ils ont des chars de guerre, ils ont tout ce qu'il faut. Pour mettre la raclée à qui il faut, quand ils ont envie. Donc, on comprend que Dieu ait donné une force exceptionnelle à Samson. Pourquoi ? Pour montrer que les armures et les chars, et toutes les forces et toutes les armes, ne peuvent rien si Dieu intervient. Voilà l'idée déjà qui se prépare. Alors, il a vu une femme parmi les Philistins, alors, comme c'est un enfant qui est bien pouponné, eh bien, verset 2, regardez, il va retrouver papa et maman. Lorsqu'il fut remonté dans la maison, il le déclara à son père et à sa mère, remonté sur la colline, bien sûr. Petite cabane, petite maison. Hein? Il le déclara à son père, à sa mère, et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Or, il est clair que chez les Hébreux, on ne marie pas une femme à quelqu'un qui n'adore pas l'Éternel, qui ne respecte pas la Torah, qui ne pratique pas trois fois la prière, etc. Donc, c'est interdit. Mais lui, je pense que dans beaucoup d'églises chrétiennes, beaucoup, à travers notre monde entier, plus spécialement dans l'Occident et en Europe, beaucoup d'enfants qui ont été éduqués à l'école du dimanche, etc., quand ils arrivaient tout près des parents, ils ont des parents faibles qui ne vont jamais les combattre parce que les parents ont peur de perdre leur enfant, de perdre leur amour, de perdre leur estime, de perdre le dialogue, etc. Et ils vont laisser faire. Ils vont peut-être grogner un petit coup, mais ils vont laisser faire. Que voulez-vous, les temps ont changé. Il faut bien être moderne. Il faut bien être tolérant, etc. Mais où est la limite? Plus on recule la limite, qu'est-ce qui va rester? Verset 3. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères, donc des cousins, etc., et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Donc ils sont bien gentils, hein? Ils ne prennent pas de face, ils disent, il y en a bien quelque part une. Vous voyez, ils ne disent pas non. Ils ne disent pas non. Ils sont mous comme de l'élastique. Chewing-gum, qu'est-ce que je tire de ma bouche et que j'étends. Et Samson, je me mets dans le cas avec. Hein. Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Donc c'est lui qui commente maintenant. Vous voyez, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, donc ils sont tourmentés, mais ils ne comprennent rien. Et là, Dieu a permis la révolte de l'enfant, et il va se servir de la révolte de l'enfant. Mais attention, l'enfant va mourir, sous le temple qui va l'écrabouiller. L'enfant va mourir, le péché engendre la mort, clairement. Romains chapitre 5, le salaire du péché est la mort. Mais Dieu va se servir de cet enfant révolté, de cet enfant désobéissant, pour la cause d'Israël. Ce qui veut dire quoi? C'est tout le thème de la permissivité de Dieu. Quand Dieu permet, laisse faire quelque chose. Est-ce parce qu'il aime le péché? Non. Si parfois nous avons péché et fait des choses, Dieu nous a laissé la liberté de le faire. Dieu nous a permis de le faire. Mais ce n'est pas parce qu'il était d'accord. Que va-t-il arriver comme fruit de cette situation? Des mauvais fruits, sûr. Y en aura-t-il des bons? J'ai toujours pensé que Marie de Magdala, dont Jésus avait expulsé 7 démons impurs, Marie de Magdala, si elle n'avait pas mené cette vie, elle était rejetée de tout le monde, bien entendu. Elle avait, après la mort et la résurrection de Jésus, une impulsion directe, parce que plus on a péché, moins on a aimé Dieu. Quand on se convertit, plus on doit à Dieu, plus on est reconnaissant à Dieu. Si on a le sentiment vraiment de la connaissance de son péché, plus on est reconnaissant. Là où la grâce a abondé, le péché a abondé, la grâce a surabondé. Qui sera le plus reconnaissant? Celui qui a été peu pardonné ou beaucoup, dit Jésus. Et donc Marie de Magdala est la plus reconnaissante de toute la bande. Et quand le lendemain de la mort, elle va au tombeau, malgré qu'il y ait des soldats, malgré que c'est dangereux, c'est elle qui vient dire aux apôtres que Jésus est ressuscité. Et si elle n'avait pas été là, les apôtres n'allaient jamais au tombeau. Ça veut dire quoi? C'est pas que Dieu est d'accord avec le péché de Marie de Magdala. C'est que le péché, parfois, c'est comme une tache dans la figure, et ça nous montre qu'il faut changer de chemin. Plus ça pue, un jour, on s'en dégoûte soi-même. Plus c'est moche, plus on s'en rend compte. À un moment donné, on s'en rend compte, ça explose. Et ce qu'il y a, si on vient au Seigneur et qu'on voit son amour, qu'on voit son pardon, il est clair que le Seigneur devient bien plus important que pour un autre. « Oh, je suis brave, moi, j'ai jamais fait de mal, etc. » Alors, on a besoin d'un peu de grâce quand on est brave à ses propres yeux. Mais quand on sait qu'on a beaucoup péché, on a besoin d'une montagne de grâce. Et ça, Marie de Magdala savait. Elle aimait le Christ parce qu'elle savait l'immensité du pardon, de la grâce qui était en Jésus-Christ. Et c'est elle qui a eu la force de braver sa peur, de braver les gardes du tombeau, d'affronter les anges, et d'aller retrouver des apôtres qui disaient « raconteur de bonnes femmes », de rencontrer des machos qui ne voulaient rien croire. Nous voyons bien que le péché peut parfois être permis par Dieu, c'est pas dire qu'il est aimé par Dieu, d'une manière à briser après mieux la personne et la ramener d'une façon meilleure, plus excellente à lui. Tout cela, si nous analysons nos vies, on peut tous en faire des romans, je pense, des sacrés romans. Alors, vous voyez ici, dans le chapitre 14, la faiblesse du papa et de la maman, etc., leur amour pour le fils, il patauge. Au verset 4, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Donc, la permissivité de Dieu avait... Samson n'avait pas trop peur de Dieu, il savait que c'est un Dieu bon et miséricordieux. Et il y a plein d'enfants de chrétiens actuellement comme ça. Zimboum, c'est pas très important, je fais quand même ce qui me plaît. C'est 20 ans après ou 25 ans après que ça se réveille. Purée, si j'avais su, je l'aurais pas fait. Mais il y a des dégâts, bien entendu. Eh bien, c'est ça. Le Samson n'est pas rare. Il est très fréquent. Alors, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Donc c'est un chicaneur, c'est un provocateur, c'est un rebelle, c'est quelqu'un qui aime bien de mettre des problèmes. Eh bien, vas-y Nénès, on va le laisser courir. C'est l'éléphant qui va dans la porcelaine, c'est le chien dans le jeu de qui? Samson, c'est ça. Ben, il y en a peut-être parmi nous qui ont été comme ça, qui avaient un caractère comme ça, hein, zimboum. Il n'y a pas, je ne me moque pas, je sais qu'il y en a ici, mais ce qu'il y a, Dieu est grand, Dieu est bon. Dieu est plus futé que nous. Il nous attend au tournant. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna, donc il est arrivé à les mettre dans sa poche. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion. Alors vous savez ce qui se passe? Il va déchirer tout, il va... Le lion va être tué, et le père et la mère vont manger du lion sans le savoir. Verset 10. Le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Et donc, il va manger, et bien sûr, vous pouvez lire, hein, il faut prendre le temps aujourd'hui, c'est dimanche. Regardez au verset 9, il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Donc, le lion avait pourri, une partie du lion était mangée, le reste avait pourri. Il repasse plus tard, il voit des abeilles dedans, il y a du miel, il prend le miel et en donne aux parents. Les parents auront mangé de la viande du lion, ils auront mangé du miel sans savoir que c'était... Il n'a rien dit.
C'est impur.
Ben oui, c'est impur. Mais il n'a rien dit. C'est un sacrifice, hein. C'est un sacrifice, hein. Alors, combien de fois des enfants peuvent amener l'impureté dans la maison de leurs parents, alors que les parents ne le savent pas? Et ça rencontre plus tard. Combien de fois des enfants profitent de l'amour de leurs parents pour faire le contraire? Ça, en ça, nous voyons que l'être humain, à chaque génération, depuis Adam et Ève, est rebelle à la vérité et à la sainteté. C'est pas qu'aujourd'hui. C'est pas qu'aujourd'hui. La rébellion fait partie de la condition humaine parce que nous sommes dans le péché d'Adam et Ève. Alors, c'est pour ça que l'Esprit Saint agita Samson, Juges 13, 25. Parce qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. Ça pète à l'intérieur, mais il ne règle pas son problème. Il vit avec. Le dérèglement de Samson va gagner la famille, hein, mais attention, au chapitre 14, verset 4, qu'est-ce que nous voyons? C'est que Dieu a une intention bien précise. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Dieu a une intention précise. Il veut utiliser ce fils tordu pour donner la raclée aux Philistins, pour briser l'hégémonie, le pouvoir tyrannique des Philistins sur les Hébreux, qui n'en peuvent plus. Est-ce que Dieu n'a pas permis à Judas de trahir et de vendre Jésus? Alors, Dieu veut provoquer les ennemis d'Israël. Dieu veut briser les ennemis d'Israël. En fait, c'est ça. Bien que les parents soient discrets, soient humbles, eh bien, il y aura, bien sûr, une apparente victoire des Philistins. Regardons le chapitre 14, versets 17 et 18. Hein, il y a tout un repas avec l'épouse. Hein. C'est ce repas, dans le repas, Samson propose une énigme. Au verset 12, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, donc il est avec sa femme, ils font 7 jours de festin. Si vous le découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Je vais lui dire, propose ton énigme et nous t'écouterons. Vous savez, quand on mange et qu'on boit, on lance toutes sortes de choses comme ça. Hein? Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. Donc, elle est philistine, et tous les gars qui sont au repas sont des philistins. Il ne va pas nous humilier, ça ne va pas durer. S'il continue à nous humilier, nous perdons la face, tu y passeras. On te brûle, toi et ta maison et tes parents. Là, nous voyons la dureté, la méchanceté de cette population. Regardez bien ce qui se fait actuellement, tout alentour d'Israël. D'une dureté, d'une cruauté, eh bien, vous voyez, vous en avez ici l'expression. Ce n'est pas une question d'islam. L'islam, c'est qu'un prétexte. C'était déjà comme ça avant. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui, disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne l'as point expliquée. Donc, elle est malheureuse, elle sait qu'elle va perdre papa, maman, frère et sœur. Donc, elle est coincée. Elle a marié un païen, donc pour les Philistins, c'est un païen, c'est-à-dire un hébreu. Et donc, eh ben, tu vas passer à la casserole. Hein. Si on est humilié, tu y seras avec. Hein. Alors, naturellement, elle craque. Verset 17, elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Pauvre mariage, n'est-ce pas? Car elle le tourmentait. Elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Donc, ils savaient, parce que Samson a craqué, il a donné la réponse de l'énigme à sa femme et la femme l'a répété pour sauver sa famille. Donc, le principe du mariage, tu quitteras ton père et ta mère pour ne faire qu'une seule chair avec ton homme et ta femme. Une seule chair n'a pas été respectée. La famille passe avant Samson. Vous voyez, le principe du mariage, c'est que quand on se marie, l'homme et la femme ne font plus qu'une seule chair et ils se séparent des parents. Et là, on voit qu'ils ne sont pas séparés. La passion n'amène pas les choses claires. La passion ne permet pas des projets clairs, tels que Dieu les demande pour le mariage. Alors, au verset 18, ils répondent, bien sûr, les gens de la ville dirent à Samson le 6e jour avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel, quoi de plus fort que le lion. Il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Donc quand on laboure un champ avec des bœufs et une charrue, mais si on met une génisse et un bœuf, quand on tire, la génisse est moins forte et la charrue part dans un sens. Et tout est dévié. Donc, vous avez labouré avec ma génisse, c'est une image de paysan pour dire, eh bien, vous avez utilisé ma femme et vous avez fait échouer mon coup. L'Esprit de l'Éternel le saisit, il descendit à Ascalon, donc c'est dans la bande de Gaza, il y tua 30 hommes, prit leur dépôt et donna l'événement de rechange à ceux qui avaient exprimé l'énigme. Donc il va aller tuer les Philistins pour donner l'événement aux Philistins qui étaient là, qui sont de la famille de sa femme. Il était enflammé de colère, il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Donc il est dans la colère, et dans sa colère, il tue des ennemis. Il n'a jamais eu projet de tuer. Mais par le fait qu'il a désobéi, qu'il a été chercher une femme hors d'Israël, il s'est mis dans une situation où il devient un meurtrier. Et il met le pétard dans les Philistins. Hein? Et ce qu'il y a, c'est que, regardez bien, la femme est donnée à l'un des compagnons. Donc, c'est une apparente victoire des Philistins qui est là. C'est une apparente victoire. Une apparente. Alors au chapitre 15, quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Donc il aime toujours sa femme. Il aime toujours sa femme. Il lui porta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Donc il aime toujours sa femme. Contrairement à tout ce que les hommes feraient, il ne la rejette pas. Là, vous devez voir quand même quelque chose. C'est que cet homme-là, même s'il est un petit peu foufou, s'il n'a pas tout accepté et vécu tous les principes de Dieu, il y a des choses fondamentales en lui qui ne sont pas les mêmes que ses ennemis. Il aime sa femme déshonorée et maudite. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Quand les pharisiens arrivent tout près de Jésus et amènent la femme adultère, qui lui dit « celle a péché, on a pris en flagrant délit adultère », Moïse nous dit de la lapider, qu'en penses-tu? Alors lui, il écrit à terre, etc. Et il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et ils s'en allèrent tous, un après l'autre, en commençant par les plus vieux. Et puis il lui dit à la femme, moi aussi je ne te condamne pas, où sont-ils? Eh bien, ils sont tous partis. Eh bien, moi aussi je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Qu'est-ce qu'il y a? La miséricorde. La miséricorde. Et pourquoi il écrit à terre? Parce que dans Jérémie au chapitre 17, il est mis que le nom de ceux qui sont condamnés par Dieu est inscrit sur la terre. Il était en train d'écrire le nom de tous ceux qui étaient là, sauf de la femme. Dans Jérémie chapitre 17, l'Éternel inscrit sur la terre le nom de ceux qui sont condamnés. Donc Jésus avait le pouvoir de les confondre et de faire exercer sa miséricorde envers cette femme. S'il n'avait pas exercé envers Marie de Magdala, je ne sais pas où on en serait. Y aurait-il une église aujourd'hui? Parce que les apôtres n'avaient pas l'air de vouloir retourner au tombeau. Donc Dieu utilise les situations et les retourne pour sa gloire. Et on voit ici que cet homme qui a été désobéissant aime sa femme. Comment se fait-il? Parce qu'il y a en lui quelque chose que Dieu fait pour qu'il ne fasse pas comme les autres. Alors, regardons bien. Nous sommes au chapitre 15, verset 1. « Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre, mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. » Vous avez vu ?« J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle ?» Donc, vraiment, il se moque hein, de l'amour que Samson a pour son épouse. Oh.
Il n'y a aucun respect de la femme.
Le père n'a aucun respect de sa fille. Un peu comme l'autre qui avait livré ses deux filles à la foule, hein, à Sodome et Gomorre. Prends-la donc à sa place. Un peu comme Laban qui avait mis Léa à la place de Rachel. Comprenez? La femme n'a pas beaucoup de valeur dans tout ce pays. Hein. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Il est en colère cette fois-ci. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards, prit des flammes. Il tourna queue contre queue, donc il lit deux renards ensemble, il met une torche au milieu, et ils vont mettre le feu à toute la région. Les renards vont galoper dans les champs, dans les oliviers, ils vont mettre le feu partout. Donc, le résultat, c'est que les Philistins se retrouvent sans récolte. Vous voyez, à partir d'un seul homme, comme Samson, que Dieu est en train de mettre la pagaille chez les Philistins. Un seul, contre tous. Alors, les Philistins, bien sûr, sont enragés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, les amis, ils vont s'en prendre à la femme. Verset 6, les Philistins dirent, qui a fait cela? On répondit, Samson, le gendre du Timnien, donc du papa de la femme, parce que celui-ci a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Les Philistins montèrent, ils la brûlèrent, elle et son père. Vous voyez comme ils sont gentils? Est-ce qu'il y a quelque chose de neuf par rapport à tout ce qu'on voit dans ces pays-là actuellement? La violence est une tradition bien ancrée. Hein, et ça ne rigole pas. Hein, on a raison, la colère. Notre colère est juste. Et vous savez ce que Jacques dit dans son épître, que la colère n'accomplit pas la sainteté de Dieu, la justice de Dieu. La colère n'appartient pas à la justice de Dieu, elle ne l'accomplit pas sur la terre. Colère de l'homme. Et qu'est-ce que dit Pierre dans son épître? Ne t'endors pas sur ta colère, sinon tu donnes accès au diable dans ta vie. Donc, si vous êtes croyant, sachez que la colère est l'ennemi de la sainteté, l'ennemi de Dieu. Seule la colère de Dieu est juste, pas la nôtre. Et il ne faut pas s'endormir sur la colère, il faut demander pardon et renoncer à la colère. Vous savez ce qu'il y a comme retombée chez ceux qui gardent leur colère? Les maladies cardiovasculaires. Ouais. J'ai déjà remarqué ça à travers toutes les visites. Et puis, en plus, je vais bientôt terminer, on continuera sans son une autre fois. Quand une jeune fille ou un garçon a des colères sur son père, sa mère, hein, dans l'enfance, papa et maman n'ont pas été d'accord avec moi, il y a des caractères irréductibles. Ça dépend des caractères des enfants qu'on a. Il y a des caractères extrêmement... On ne peut pas, on peut leur casser la tête, ils ne changent pas. Il y a des enfants comme ça. Il y a des enfants qui sont doux, qui acceptent de changer, qui ont peur, ils sont craintifs, il y a tout. Mais il y a des enfants, c'est un os, la tête. Alors, je suis tombé dans la semaine sur une jeune fille de 22 ans qui a la tête comme un os. Et qui a le bras gauche qui se paralyse, etc. Et qu'on a opéré il y a un an du dos. Parce qu'elle avait une vertèbre qui pourrissait. Une vertèbre qui pourrissait. Donc, on l'a opérée, on a mis une carcasse métallique avec du ciment on a remplacé 7 vertèbres. Et pratiquement, j'avais prié avec un ami, elle était au bout de la pièce, en train de converser, et je priais avec cet ami, parce qu'il m'avait dit, tu devrais aller voir cette femme, elle est gravement malade, est-ce que le Seigneur peut-être te demanderait de parler avec elle et de prier pour elle. Et je dis, écoute, j'attends un jour ou deux, je préfère prier pour savoir. Mais tout de même, j'ai été tout près, je me suis assis, et j'ai remarqué que son caractère est de fer. Et ça, et alors, étant donné, le Seigneur, explique-moi un petit peu, montre-moi un petit peu, je dis, tu es en colère contre tes parents? Tu as des rancunes contre tes parents? Que tu as des problèmes si graves ou d'autres? Oui, je ne pardonnerai jamais à ma mère. Alors je réponds ceci. Ton âme est encore plus malade que ton dos. Tu as vraiment besoin du Seigneur. Et je suis retourné, je dis, voilà, mon adresse email, envoie-moi un message si tu veux qu'on veut savoir. Pendant la nuit, j'ai prié. Pendant la nuit, je ne me dors pas toujours. Et pratiquement, j'ai pensé qu'à 2 kilomètres de là, j'ai un de mes meilleurs amis qui est né là, qui avait un caractère de fer comme ça, qui s'est retourné avec un tracteur, qui est devenu malade et qui est resté 29 ans au lit. 29 ans, malade. Le même caractère. Quand j'ai vu les yeux et la façon dont il parlait, ce bonhomme à 2 km, à la forme, et je ne vais pas donner les noms, etc., parce que c'est enregistré, pratiquement, au bout de 29 ans de lit, à 54 ans, une chrétienne est passée et lui a dit, vous croyez en Dieu? Non. Vous avez déjà demandé à Dieu qu'il vous guérisse? Non. Est-ce que je peux prier pour vous guérir? Parce que moi, j'ai demandé ce soir-là, là, avant-hier, à cette jeune fille, est-ce que vous voulez bien que je prie pour vous, que le Seigneur vous guérisse? Non. Tête de lard. Alors, pratiquement, mais c'est sans droit d'être tête de lard. Sans soin d'être tête de lard aussi. Hein? Regardez ce que ça va l'amener, on verra dimanche prochain. Eh bien, pratiquement, ce qui s'est passé, c'est que cette femme a prié. 2 jours après, il s'est levé. Il était guéri. Il est monté aux arbres pour cueillir des cerises. Et il a commencé à voyager. Les gens n'en revenaient pas. Il a pris une boîte de souliers. Il avait vu une annonce dans le journal qu'en Ukraine, on demandait des médicaments. Il en avait plein dans la maison. Il les a mis dans la boîte et les a envoyés en Ukraine à des chrétiens. Les chrétiens l'ont remercié là-bas. Il lui a dit, il nous en faudrait encore plus. Alors, le mois d'après, 1 mètre cube. Et puis, au bout de 2 ans, 1 semi-remorque toutes les semaines. Et puis, ce cher monsieur a ouvert la Bible. Il a lu la Bible. Il a commencé à aller dans une église en se demandant ce que c'est de ça, etc. Et mon ami Louis Pelzer, est devenu évangéliste. Il a visité des centaines de villages et de villes, même les égouts de Kiev. Il y a 14 000 enfants qui vivent dans les égouts. Et il a été évangélisé en Russie. Et il y a une œuvre qui s'appelle « Le messager de la paix ». Et c'est une tête de l'air. Et Dieu l'a brisé. 29 ans. 29 ans. Qui vous donne le droit de résister à Dieu? Satan peut-être, mais pas Dieu. Qui vous donne le droit de vous faire souffrir vous-même en restant prisonnier de votre misère si vous n'avez pas l'intelligence de demander pardon à Dieu et de vous jeter dans ses bras? De savoir que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour vous et de vous aimer, de vous laisser aimer, de vous laisser conduire par lui. La vraie intelligence, c'est d'aimer Jésus, de se jeter dans ses bras, de l'aimer et de servir, de suivre. La fausse intelligence, la tête de lard, la tête de fer, n'amène qu'à la perte. C'est Satan qui tient avec un cercle de feu, avec des démons, le mental d'un tas de gens, pour les opposer à Dieu. Eh bien, cette jeune femme-là de 22 ans, à 2 km de la ferme où elle est née et où elle a travaillé, où elle est tombée malade 29 ans, mon ami lui, je me suis dit pendant la nuit, Seigneur, c'est pas par hasard. Ça fait 2 ans que je cherche à faire de l'évangélisation. J'ai le désir de le faire dans le coin de Florentville. Et voilà, il y avait une autre femme aussi là, avec des enfants, avec de gros problèmes aussi. voilà, Seigneur, les premières maisons où je vais aller dans le coin de Florentville. J'attendais cela. Et qu'est-ce qu'il y a? Je tombe sur des têtes dures comme ça. C'est pourquoi que je veux vous dire, à l'impossible, je suis tenu. Tout est possible pour Dieu. À l'impossible, je suis tenu. Je dois y aller. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais raconter, je vais donner le livre de mon ami Louis Pelzer, « Je suis passé des ténèbres à la lumière ». Je vais le donner à cette jeune fille. Et je vais prier. Même si elle ne le veut pas, je vais prier. Parce que s'il fallait attendre de prier pour tous les pécheurs, hein, qui veulent bien, il n'y en aurait pas beaucoup, surtout en France et en Europe. Parce qu'ils crachent dans la soupe, ils n'en veulent pas de la prière. Moi, je me suis trouvé insulté une fois par un homme d'un village ici à côté. Je ne t'ai jamais demandé de prier pour moi. J'ai appris que tu priais pour moi. Il m'avait convoqué chez lui. Ne recommence pas que je ne l'apprenne pas. Je te mène à la police. J'avais appris que je priais pour lui. Et c'est un homme qui a de l'influence en région. Hein. Qui a de l'influence, qui écrit des livres et tout. C'est pas ça une tête de l'art? Et Dieu peut briser les têtes de l'art. Donc la jeune femme qui était là, elle peut être brisée. Et elle peut glorifier Dieu et le servir après. L'apôtre Paul n'était pas comme ça? Pierre n'était pas comme ça? Samson n'était pas comme ça? La conversion de quelqu'un, c'est une mission impossible. Aucun pasteur, aucun évangéliste ne peut amener quelqu'un à la conversion. Seul Jésus peut briser le péché du cœur de l'homme et lui donner par le Saint-Esprit l'amour de Dieu, l'amour de la vérité, l'humilité. Amen.
Amen.
Qui veut chanter ?